attention. Ce matin, j'aimerais vous ramener, comme il a dit, lire la Bible. On va lire la Bible dans le livre de Josué, chapitre 14. Et je vais vous parler d'un personnage biblique dont il est parlé ici. Ce personnage, c'est Caleb. Caleb. On va lire chapitre 14, du verset 6 jusqu'au verset 13. Voilà, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, les Kénésiens, lui dit: « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu à mon sujet, et au tien à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron pour héritage. Voilà ici, il y a un verset que Paul nous dit que ces choses dans l'Ancien Testament, ils nous ont été données ou écrites pour nous servir d'exemple. Et voilà, j'ai pris ce personnage biblique, Caleb, qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Il faut seulement, encore une fois, bien méditer ce qu'on lit et nous allons en retirer des bénédictions bien importantes pour chacun de nous, dont nous avons besoin. Pourquoi? Caleb, il nous montre son caractère, un caractère que Dieu a honoré. D'abord, déjà, son nom. Caleb. Le nom de Caleb, ça signifie un cœur entier. Vous savez, à cette époque-là, on donnait chaque nom, il avait une signification sur sa vie. Et donc, ici, on nous dit déjà que Caleb, il avait un cœur entièrement consacré. Voilà pourquoi, comme il nous raconte c'est ce qu'on vient de lire. Il raconte un peu l'histoire lorsque Moïse, il a envoyé les 12 espions pour visiter le pays de Canaan. Et lui, son nom, Caleb, c'est un cœur entier. Vous savez qu'il y a des cœurs qui sont partagés aussi. C'est-à-dire qu'on pense à Dieu et qu'on pense à nous-mêmes, ou qu'on pense aux choses du monde. Ce que nous avons comme exemple en Jésus-Christ, c'est que lorsqu'il est venu ici, il avait lui aussi un cœur partagé, un cœur entièrement voué à la volonté de Dieu. Et c'est cela que Dieu, il demande à chacun de nous, que notre cœur, il soit entièrement à Dieu, qu'il n'y a rien dans notre cœur dans lequel le Seigneur, il ne puisse pas rentrer. Lui, son cœur, il était ouvert. Il n'y avait aucun secret. Et ce caractère, ce cœur entièrement consacré au Seigneur, il a été récompensé. Et sachons, nous aussi, que si notre cœur, il est entièrement consacré à Dieu, la Bible nous dit que nous avons un héritage dans les cieux. Et si encore une fois notre cœur est consacré, nous aurons cet héritage. Et personne ne nous a dit, il va nous l'enlever. C'est un héritage qui ne pourrit pas, que les voleurs ne peuvent pas nous prendre, parce que c'est un héritage que Dieu il nous donne. Voilà, Caleb, un cœur entier, un cœur consacré. Et c'est la même chose que Dieu il nous demande à chacun de nous. Mais étudions la vie de cet homme, car il a beaucoup à nous apprendre. Par exemple, regardons son caractère. Son caractère. Au verset 7, regardez ce qu'il dit. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoyait à Kadès Barnéa pour explorer les pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. On voit que c'était un homme honnête. Pas honnête vis-à-vis du monde, mais honnête par rapport à son cœur. Parce qu'il nous a dit, et j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Lorsqu'on est honnête, lorsqu'on a un cœur droit devant Dieu, automatiquement nous sommes bénis. Le Seigneur, il connaît. Il y a un proverbe qui nous dit, celui qui est sage de cœur manifeste sa sagesse par la bouche. Vous savez que tout ce qui est dans notre cœur, c'est lorsque nous parlons que les gens, ils peuvent déceler ce qu'il y a dans notre cœur. On dit toujours, il a un bon cœur. Ou sinon, on dit à telle personne, elle est bonne, elle a un bon cœur. Le Seigneur Jésus, il me dit que du cœur, il ne sort que de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que c'est le centre de la personne. Et c'est là, dans notre cœur, que tout est dirigé. Il dit aussi, l'homme dont le cœur est ferme, confiant à l'Éternel, c'est celui-là qui sera dirigé par le Seigneur. C'est celui-là sur qui le Seigneur il va déverser ses bénédictions. Mais il faut être honnête. Comme je dis toujours, lorsqu'on prêche l'Évangile et lorsqu'on dit aux gens, vous êtes des pécheurs, vous avez péché contre Dieu. Vous êtes perdu, vous êtes condamné, vous êtes jugé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui le dit. Si les personnes elles sont honnêtes, hein, ils doivent dire, oui, tu as raison. Je suis pécheur. Chose que vous ne sentez pas aujourd'hui. Vous n'entendez pas la personne vous dire ça. Il dira, oui, je ne suis pas plus pécheur que l'autre. Ou sinon, ils vous diront, non, j'ai fait tout ce qu'il faut. Mais Dieu, il nous dit que si on n'a pas Jésus-Christ dans notre cœur, nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas justifiés. Et c'est ça, lui, Caleb, il dit, il était honnête. Il a fait un rapport avec droiture de corps. Il n'a rien caché, parce que si vous connaissez l'histoire, des 12 espions, il y en a 12 qui ont été envoyés, et il y en a que 2 qui ont fait un rapport avec droiture de cœur. C'est-à-dire qu'ils ont dit la vérité, ils ont dit ce qu'ils ont vu, mais ils ont aussi rappelé ce que Dieu leur a promis. Tandis que les 10 autres, ils ont fait un rapport négatif, c'est-à-dire un rapport qui n'était pas avec un cœur droit. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient plus pour eux-mêmes que pour les promesses de Dieu. Et il y a un autre verset qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il faut avoir le cœur pur pour voir Dieu. Est-ce que vous avez le cœur pur? Vous me direz, mais comment avoir le cœur pur? Jésus-Christ nous a été envoyé pour cela. La seule façon d'avoir le cœur pur, c'est de se tourner vers Jésus-Christ, d'être honnête et de reconnaître ce que nous sommes. Et c'est ça que le Seigneur attend. Lui, Caleb, c'était un homme honnête. On lui a demandé, qu'est-ce que tu as vu? Il a fait un rapport honnête. Il a fait un rapport de ce que le cœur lui disait. Parce que c'était un homme de cœur. C'était un homme qui ne cachait rien. Et pour avoir le cœur pur, il faut avoir le Seigneur dans notre cœur. Car c'est lui qui le purifie. Et Caleb, c'était quelqu'un qui avait le Seigneur dans leur cœur, dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il accomplissait les commandements de Dieu. Il faisait tout ce que Dieu lui demandait. Et c'est ça que le Seigneur nous demande à chacun de nous, d'être honnête. Comme Caleb, il a été, d'être honnête vis-à-vis de Dieu. Et de reconnaître. C'est très difficile de reconnaître notre état, notre vrai état, d'être pécheur. C'est très difficile. Mais c'est là qu'on voit la disponibilité de ce caractère. Caleb, il a eu. On voit un autre trait de son caractère au verset 8. Il dit, mes frères étaient montés avec moi, découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ici, on voit que c'était un homme rempli d'amour. Si je vous demande, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il est rempli d'amour? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Regardez les premiers mots. Mes frères. Qui sont ces frères? Il parle de 10 autres espions qui n'ont pas accompli la volonté de Dieu, qui ont été désobéissants parce que Dieu il leur avait dit « Rentre dans les pays, prends possession du pays que je te donne. » Ils l'ont exploré et ils ont passé plus à eux-mêmes. Ils ont passé à ces anakim, à ces géants qui habitaient ces pays. Ils ont dit non, non, on n'arrivera jamais à les chasser. Mais Dieu leur a dit, rentre. Et ces 10 autres, ils ont refusé. Donc, ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Et ici, Caleb, il les appelle mes frères. Mes frères. Oui, ils avaient failli, mais pour lui, il avait au plus profond de lui-même l'amour pour tous ceux qui avaient désobéi. Et ainsi, il doit être notre propre cœur. Il y a des frères et sœurs, peut-être, qui nous font des misères. Des frères et sœurs qui, peut-être, ils tombent dans le péché. Nous ne devons pas le laisser derrière, ne plus manifester notre amour pour eux. Au contraire, nous devons aller vers eux et leur montrer tout l'amour que Jésus a mis au plus profond de nous-mêmes. Car vous savez, si on n'a pas le Seigneur Jésus dans notre cœur, on n'a pas l'amour. Vous me direz, mais oui, mais j'ai mon fiancé ou ma fiancée, je l'aime. C'est pas ça l'amour. C'est l'amour de Dieu qui compte. Parce que l'amour qu'on manifeste sans Dieu, c'est un amour qui passe vite, n'est-ce pas? Aujourd'hui, hein, il y a 3 mariages sur 4 qui se cassent. Pourquoi? Parce qu'on dit à quelqu'un, un homme et une femme, je t'aime, je vais vivre avec toi, mais une fois passé un mois ou deux, il n'en voit une autre pas, il casse. L'amour de Dieu, c'est un amour éternel. C'est un amour éternel. Et ici, on voit qu'il est rempli d'amour. Il se souvient de ses frères qui étaient avec lui, qu'ils ont péché, qu'ils n'ont pas accompli la volonté de Dieu. Et pourtant, il est rempli d'amour. Il les appelle mes frères. Et vous savez, si vous lisez le chapitre 13 de 1 Corinthiens, il parle de cet amour. Hein? L'amour supporte tout, il est plein de bonté, etc., etc., etc. Mais c'est l'amour que Dieu il a manifesté envers nous. Et c'est cet amour-là que nous devons avoir au plus profond de nous-mêmes. Mais ici, vous savez, l'amour, des fois, il est cassé par la langue. Vous savez, on a tous la langue, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de terrible. Moïse! Pourquoi Moïse il a été interdit de rentrer dans la terre promise? À cause de la langue. Ils étaient dans le désert. Ils avaient soif. Et alors Dieu il lui a dit, parle au rocher. Ils s'étaient presque rebellés contre l'Éternel, contre Moïse. Et Dieu il lui a dit, parle au rocher, dis au peuple d'Israël. Qu'est-ce que c'est qu'a fait Moïse? Il a réuni les peuples, il s'est un peu énervé et il a dit, écoutez, rebelles. Dieu ne lui a pas dit ça. Ce n'est pas une manifestation d'amour. Dieu lui a dit seulement, parle au rocher. Ne juge pas tes frères. S'il y a quelqu'un qui doit juger, c'est moi. Mais Moïse, il était énervé et il les appelait rebelles. Caleb n'a pas fait comme ça. Son cœur, il était rempli d'amour. Et ce péché, il lui a coûté l'entrée dans le pays de Canaan. Et pourtant, vous me direz, c'est pas un péché. Mais oui, mais voilà. On ne se moque pas impunément de Dieu. Aujourd'hui, la pensée, c'est que Dieu est bon. Dieu n'enverra personne à l'enfer. Comment? S'il est bon, il ne peut pas, voyons, il ne peut pas envoyer en enfer. Mais il ne faut pas oublier que Dieu, il est juste et il est saint. Dieu nous a donné toutes les possibilités pour que nous puissions accomplir sa volonté. Si nous sommes des pécheurs, il nous dit, confesse ton péché, répands-toi de ton péché, tourne les yeux vers moi et je vais te pardonner. Et tu seras avec moi. Dieu, il donne la disponibilité et le pouvoir de pouvoir s'approcher de lui. Et pour s'approcher de lui, il n'y a qu'une seule et unique manière. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il nous a dit, Paul il nous a dit, qu'il a déversé son amour dans notre cœur. Et c'est malheureux des fois de voir des frères et sœurs qui ne se disent même pas bonjour. J'ai ici quelque chose à propos de la langue. C'est quelque chose de très dur. Hein? La langue, les paroles peuvent rassembler à des clous. Elles peuvent construire, elles peuvent créer, elles peuvent fortifier. Ou alors, elles peuvent blesser, elles peuvent percer ou crucifier. Crucifie-le! C'est ce qu'ils ont crié par les paroles. Les paroles peuvent rassembler à l'eau. Elles peuvent désaltérer. Elles peuvent nourrir. Elles peuvent purifier. Mais elles peuvent aussi ronger. Elles peuvent aussi inonder. Elles peuvent aussi noyer. Les paroles peuvent rassembler au feu. Elles peuvent chauffer. Elles peuvent réchauffer. Elles peuvent éclairer les ténèbres. Mais elles peuvent aussi brûler, faire du mal et marquer d'une cicatrice. La langue, c'est quelque chose, c'est les plus petits membres qu'on a. C'est comme le gouvernail d'un navire. Vous savez, le gouvernail d'un navire, il est tout petit. Et pourtant, il dirige des grands bateaux. Et la langue, c'est ça. C'est par elle qu'on peut bénir et qu'on peut maudire. C'est par elle qu'on peut dire à un frère, une sœur, je t'aime, même malgré ce que tu m'as fait, mais on peut aussi le dire, je ne veux plus de toi, je ne te dis plus bonjour, je la vois, je change de chemin. C'est ça le manque d'amour. Et pourtant Jésus, est-ce qu'il a changé de chemin lorsqu'il a vu la misère du monde, le monde pécheur? Non, au contraire. Lui qui était Dieu, il est devenu chair. Et il a pris notre place sur la croix. Voilà ce qu'il était. Il était rempli d'amour. Rempli d'amour. Et on voit aussi au verset 8, encore, qu'il dit, « Mes frères, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel. » Il était dévoué. J'ai suivi pleinement, pas à moitié, mais pleinement. C'est-à-dire qu'il a accompli sa volonté, qu'il a suivi ses traces, qu'il a regardé constamment devant lui. Parce que vous savez que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient le feu et ils avaient aussi cette nuée. Il était constamment là. Le feu, c'était la nuit et la nuée, c'était les jours. C'est ce qui faisait la nuée. Il s'élevait ou il se mettait dans un campement. Il suivait toute direction. Et il dit lui-même... J'ai suivi pleinement, pas à moitié. Pas à moitié. Dans la parole de Dieu, c'est exactement pareil. Il y a des versets, qu'on dit, ce verset, c'est pour moi. Il y a des versets dans lesquels on se dit à nous-mêmes, mais peut-être que... Mais il n'a pas voulu dire ça. Sachez que lorsque Dieu dit sévère, sévère, il ne change pas d'avis, Dieu. Pour Dieu, le péché, c'est les péchés. Il n'y a pas de gros, de petits, de grands péchés. Péché mignon, péché mortel, péché originel. Pour Dieu, il y a le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est la transgression de la loi de Dieu. Je vous le dis toujours, vous pouvez voler une trombone et voler et un autre, il vole un million d'euros, c'est le même péché. Vis-à-vis de Dieu, c'est le péché. Voilà, mais lui, il était dévoué. Luther, il disait, « Je ne peux pas faire autrement. Aussi, Seigneur, aide-moi. » Parce qu'en nous, il n'y a pas cette force de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ, il est venu pour accomplir à notre place cette loi que Dieu lui avait donnée. Car qui peut accomplir la loi aujourd'hui? Personne. Lorsqu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Comment peut-on aimer notre Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur? On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Mais Jésus, il est venu. Et il a accompli la loi à notre place. La loi était la malédiction. Et Jésus l'a pris sur lui. Voilà pourquoi nous devons remercier ce Jésus qui a pris notre place sur la croix. Car il a pris sur lui cette malédiction. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique et la mort éternelle. Et Jésus, il a pris tout ça sur lui. Par lui et grâce à lui, nous avons la vie éternelle. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et tout ça grâce à Jésus-Christ. Et c'est là qu'on doit dire Amen. Merci Seigneur de cela. C'est ça qui est très important dans notre foi. Savoir que sans Jésus, nous étions et nous sommes Si vous avez Jésus dans votre cœur, si vous vous êtes tourné vers lui, dans la conversion, dans la repentance, et en lui disant, Seigneur, viens dans mon cœur, sauve-moi, que je suis un pécheur, mets à moi ton esprit. Si vous n'avez pas fait ce chemin, vous êtes perdu, vous êtes condamné. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Vous demandez à n'importe qui, vous dites, c'est quoi la Bible ? Et ils te diront, c'est la parole de Dieu. D'autres me diront, c'est soi-disant la parole de Dieu. Mais c'est qui croit. Et ils se disent, oui, c'est la parole de Dieu, mais ils n'obéissent pas. Vous savez, Dieu, c'est la solution, comme il prie une sœur tous les vendredis. Il dit, Dieu, Jésus, c'est la solution. Il y a beaucoup de problèmes dans notre propre vie, n'est-ce pas? Et on cherche à l'école, voilà, il y a des problèmes, on cherche la solution. Dans notre vie, la solution, c'est Jésus. Et personne d'autre. Voilà le caractère de Caleb. Il était honnête, rempli d'amour, dévoué. Et ensuite, il y a sa foi. Car sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est ce qui nous dit la parole encore. Si on n'a pas la foi, c'est-à-dire de croire en ce que Dieu est, en ce que Dieu a fait, en ce que Dieu y fera, en ce que nous sommes, en ce que nous devenons, en ayant foi en Dieu, si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sa foi, on la voit au verset 9, regardez. En ces jours-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé, c'est là ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle la promesse. La promesse que Moïse lui avait faite, que Dieu lui avait faite. Il y a 45 ans. Et vous savez, nous devons toujours rappeler les promesses à Dieu. Seigneur, tu as dit cela. Dans ta parole, tu me dis cela. Et je te réclame cette chose-là.
Amen.
Parce que tu l'as dit. Et sachant que Dieu n'est pas menteur pour retirer ce qu'il a dit. Vous savez, il y a la religion de et l'islam. Ils te disent, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu vas aller au ciel? Ah, je ne sais pas. Inch'Allah. Dieu seul le sait. Moi, je sais si je vais au ciel ou pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il me le dit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. Donc, je crois en Jésus-Christ. Je me suis mis entre ses mains. Je me suis repenti de mes péchés. Je me suis converti. J'ai prié le Seigneur de venir dans mon cœur et de me diriger à toutes choses. Et je peux dire, si je meurs là, je vais au paradis. Est-ce que je suis orgueilleux de dire ça? Non. Je dis seulement ce que Dieu a dit. Et lui, Caleb, il rappelle la promesse. Et c'est ce que nous devons faire. Si on étudie la Bible, on voit toutes les promesses de Dieu. C'est là qu'on peut aller vers Dieu, on le prie. Voilà, Seigneur, ici, tu as promis. Et ici, il a dit, l'endroit où vous mettrez vos pieds, je vous le donne. C'est ce qu'il a dit l'Éternel. En Canaan. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas tout conquis le pays de Canaan. Il y a des endroits où ils n'ont pas mis les pieds. Vous savez, nous devons être un peu comme les chiens. Vous savez que les chiens, ils marquent leur passage ou leur territoire. Ils lèvent leurs petites pattes. Hein, là, j'ai levé les bras, mais bon. Hein? Voilà, il faut marquer les territoires. Conquérir, parce que le Seigneur il nous a dit, allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, enseignez, faites des disciples. Nous devons aller et conquérir le monde pour Jésus-Christ. Et il y a encore des endroits où cette bonne nouvelle n'a pas encore été prêchée. Et nous devons obéir à cet ordre. Il faut aller. Et c'est voilà pourquoi il rappelle la promesse. Et c'est beau. Et vous savez, l'incrédulité a la mémoire courte. On oublie vite, n'est-ce pas? Oui, le Seigneur m'a promis ça, mais non. Je ne sais pas si... Lorsqu'on lit la Bible, est-ce qu'on croit ce qu'on lit? C'est ça le problème. C'est ça le problème. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et lui, Caleb, il rappelle cette promesse. Il a dit, tu me l'as promis. Il y a 45 ans. Il n'a pas oublié, hein? Si pendant ces 45 ans, il avait constamment cela dans sa tête. Voilà, Dieu, il m'a promis qu'il m'aurait donné ce territoire. Maintenant, Josué, donne-moi ce territoire. Comme Dieu me l'a promis par Moïse. Voilà, cet acharnement. D'ailleurs, au verset 13, il nous est dit, hein, Josué bénit Caleb. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté sa foi. Au moins aussi, regardez dans Nombre 24, 14, 24. 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans les pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Ici, sa foi de Caleb, on voit encore, hein, il croit à la parole. Il nous a dit, ce verset, il nous l'a dit, « Et parce que mon serviteur est animé d'un autre esprit que ses 12, que ses 10 autres, cet esprit qui pensait à eux-mêmes, qui a été rempli de peur, mais Caleb, qu'il a toujours cru aux promesses de Dieu, qu'il a cru toujours Dieu, il avait un autre esprit. » Et voilà, à cause de cela, et qu'il a pleinement suivi ma voix, pas à moitié ou un peu, mais pleinement, pleinement, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Je le ferai entrer dans le pays. Et ça, c'est la même chose pour nous. Hein? Si nous croyons à la parole de Dieu, comme il a dit à Caleb, le Seigneur, il va nous faire rentrer dans le Canaan céleste. Pas terrestre, mais céleste, dans le paradis. Je le ferai rentrer dans Canaan. À nous, il nous dit, je te ferai rentrer au paradis, parce que tu as cru à ma parole, parce que tu as suivi pleinement ma parole, parce que tu as fait ma volonté, je te fais rentrer au paradis. D'ailleurs, c'est ça que chaque chrétien, il aimerait que le Seigneur nous dise, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos que ton maître a préparé pour toi. Il croit à la parole. Oh, bien sûr, il y a des choses dans lesquelles il est difficile, mais par la parole, nous avons des certitudes. Il nous est dit dans Romains 8, nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, bonnes ou mauvaises. C'est difficile de se réjouir lorsqu'il y a quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Et pourtant, il nous le dit, toutes choses. Et aussi dans Jean 3, il nous dit, nous savons que quand Jésus-Christ sera manifesté, nous lui serons semblables. Si on a Jésus dans notre cœur, lorsqu'il va venir, nous lui serons semblables. Je vous le dis toujours, hein, et vous rigolez chaque fois que je le dis, je me regarde à la glace, je me dis, Aldo, que tu es beau. Parce que je vois Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se plaisent pas dans leur... Pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire, pas à Jésus, mais au monde. Et il y a des retouches là. Voilà, moi je me plais, Dieu il m'a fait comme ça, je me plais et je me dis, tu es beau, Aldo. Et je serai semblable à Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous dit, des certitudes. Ça c'est la certitude que la Bible nous donne. Il y a aussi, il dit, je ne peux pas vous prouver l'existence de Dieu, ni vous dire comment il s'est révélé à moi. Mais, dans Jean 9, 25, je sais une chose, que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est ce qu'il a dit, l'aveugle, n'est-ce pas? Mais comment, mais écoute, je ne sais pas qui c'est, c'est Jésus, hein, si c'est un prophète. Je sais une seule chose, que j'étais aveugle et maintenant, je vois. J'ai la certitude. J'ai la certitude. Pourquoi? Parce que je crois à la parole. Je crois ce que Dieu me dit. Il m'arrive de trouver que l'avenir est sombre et qu'il est de plus en plus difficile de vivre en chrétien. Dans ce monde où l'on n'honore pas Dieu. Mais, Ecclésiaste 8, 12, je sais cependant que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils craignent sa face. Je ne sais pas dans cette vie de chrétien qu'on mène, si tout est rose. Non, il n'est pas tout. Mais je sais une chose, que si je crains Dieu, je verrai sa face. C'est des certitudes que nous devons avoir, parce qu'ils sont dans la parole de Dieu. Hein? Autre chose, elle dit, je vois autour de moi des situations inextricables, sans solution humaine, mais, dans Job 42, 2, je sais que tu peux tout, et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Il est le Dieu de l'impossible. Dans notre vie, on dit, c'est pas possible, ça, je n'arrive pas. Tournons-nous vers Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Comme il a dit Job, je sais que tu peux tout. Que tu peux tout. Qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Je suis en peine parce que certains de mes proches se sont engagés dans un mauvais chemin. Mais j'ai prié pour eux et tous ceux que j'aime. Pourquoi? Dans 2 Timothée 1, 12, je sais qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié. Nous savons en qui nous avons cru. Et lorsqu'on prie pour les personnes de notre famille ou nos amis, nous savons en qui nous avons posé cette solution. Oui, vous savez, on a chacun de nous, je suppose qu'il y a des gens qui encore ne connaissent pas le Seigneur. Et on est dans la tristesse. Parce qu'un jour, nous serons partagés, divisés. D'ailleurs, vous savez, ma femme, s'il est venu au Seigneur, je l'ai toujours dit, hein. J'ai dit, on est unis dans les mariages. Mais si on meurt, moi je vais à droite et toi tu vas à gauche. Et ça, depuis, il m'a suivi dans l'église. C'est ça. Vous savez que le mariage, c'est l'union pour toujours. Et dire à votre femme, ou dire à votre mari, à tous ceux à la mort, moi je crois en Jésus-Christ, toi tu ne crois pas. Ça m'étonnerait qu'on aille au même endroit. On s'aime, mais si on n'a pas les mêmes croyances, on sera divisé. C'est ça, la certitude. Et aussi, il nous dit encore une autre certitude, je vois partir peu à peu, mes amis. Et la pensée solennelle de la mort m'étreint quelquefois. Mais, Job 19, c'est un verset qu'on connaît, hein. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Pensez à la mort, oui, des amis qui sont partis. Mais voilà, je sais que mon Rédempteur est vivant et que les derniers jours, il sera debout sur la terre. Et mes yeux le verront. Voilà la foi. Voilà ce qui fait cette foi. Hein? Et au verset 12, regardez ce qu'il dit au verset 12. J'ai changé de chapitre, désolé. Je suis obligé de le rechercher. Verset 12. Et il dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anakims, des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Il réclame la bénédiction. Pas seulement, il rappelle la promesse. Rappelle-toi, Seigneur, ce que tu m'as dit. Mais il faut la réclamer. Ça m'a fait rire en lisant ça et en préparant le message. On dirait qu'il rappelle à Dieu. C'est comme si Dieu il a oublié. C'est un peu comme le peuple d'Israël, lorsqu'il était en captivité, en Égypte. Il criait constamment, « Oui, Seigneur, tu nous as promis un Messie. Envoie-le, s'il te plaît. » C'est comme si Dieu il avait oublié. Dieu, il n'oublie pas. Mais il a le temps de Dieu. On appelle ça le kairos de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et dans Galates, il nous est dit, lorsque les temps furent accomplis, Dieu, il a envoyé son Fils, Jésus, ni avant ni après, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Et nous devons réclamer toutes ces bénédictions. Toutes ces bénédictions. Et Dieu, il aime ce qu'il réclame. Il a dit lui-même, demandez. Et je vous donnerai. C'est ça que nous devons faire. C'est ça la foi. Demander à Dieu, réclamer et rappeler les promesses. Comme si Dieu il a oublié. Mais c'est bon de rappeler ces choses. Seigneur, tu as dit que tu ferais ça et ça et ça. Je te réclame cette bénédiction. Je te la réclame. Et pour terminer, il y a son témoignage à Caleb. Et on voit ça dans le chapitre 10, regardez. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Comme il l'a dit. Il m'a fait vivre comme il l'a dit. C'est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Nous sommes infidèles. Mais malgré notre infidélité, Dieu est fidèle. Parce qu'il nous aime. Il a tellement fait déjà pour nous. Il a donné son Fils. Pour qui? Pour des êtres ignobles, tels que moi, tels que vous. Et Jésus, il a dit, que ta volonté soit faite. Et avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur. Ça y est, j'ai donné ma vie à rançon. Pardonne-leur. Un Dieu fidèle. Et au verset 11, je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de forces que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. C'est un Dieu bon. J'ai autant de forces il y a 45 ans que maintenant. Donne-moi cette bénédiction, cette promesse que tu m'as donnée et je vais le combattre. Parce que je sais que tu es avec moi. Tu es un Dieu bon, tu n'oublies pas tes promesses. Et au verset 12, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel parla dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel l'a dit. Un Dieu puissant, rien ne résiste au Dieu vers lequel nous sommes tournés. C'est le témoignage qui donne. Hein? Battre nos adversaires. On est en train d'étudier Satan, les diables. Comment on peut battre l'adversaire en nous confiant en Dieu, en nous laissant diriger par lui. Pourquoi? Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Voilà les témoignages de Caleb. Un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu bon, un Dieu puissant. Et il n'est pas étonnant, après un tel témoignage, que Josué, il lui donne le territoire dont Moïse y avait. Il l'a donné parce qu'il savait qu'avec cette foi, il ne peut être que vainqueur. Voilà, heureux ceux qui s'y confient en lui. Et ça, c'est la question, est-ce que vous vous confiez en lui, en l'Éternel, en Jésus-Christ? Si vous le faites, la Bible nous dit heureux. Heureux. Même si vous êtes malheureux ici-bas, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que vous avez un avenir. Dans Jérémie, il nous dit, j'ai de l'avenir pour toi. Ceux qui n'ont pas Dieu, quel avenir ils ont? Qu'est-ce qui va t'arriver? Ah, je ne sais rien. Mangeons et buvons. Non, nous disons, j'ai un avenir. Et cet avenir, il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous le donner. Si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur, vous avez cet avenir. Vous me direz, moi je ne l'ai pas, que faut-il que je fasse? Vous savez, il y a l'ABC du salut, vous le connaissez, l'ABC du salut. Hein? Il y a quatre pas à faire. Premièrement, c'est avouer qu'on est pécheur. C'est le premier pas. Hein? Tout le monde a fait des choses injustes envers Dieu. Tous. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième pas, c'est changer d'avis. C'est-à-dire la repentance. C'est repentir de ce qu'on a fait, de ce qu'on était. Et c'est dire vers le Seigneur, oui Seigneur, je me repens de tout ce que j'ai fait. Viens mon secours. Quatrième pas, c'est croire à ce que Jésus a dit, à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu lui a promis de faire. Croire à toutes ces choses. Comme Caleb, avoir la foi. Et quatrièmement, c'est demander à Jésus. Jésus, tu as pris ma place sur la croix, tu es mort à ma place. Viens dans mon cœur. Sauve-moi. J'ai besoin de toi. Voilà ce que Caleb a fait et voilà ce que nous, nous devons faire. À chacun de nous, chacun de vous peut donner une réponse à cela. Est-ce que c'est confié en Dieu ou pas? Ça, c'est la parole. Maintenant, c'est à vous de prendre les dispositions nécessaires. Ne faites pas ça hâtivement. Car on ne donne pas une réponse hâtive au Seigneur. Parce qu'on peut écouter une prédication et être ému, les larmes aux yeux. Oui, Seigneur, oui. Je veux être à toi. Et en sortant d'ici, ils oublient tout. Lorsqu'on se donne au Seigneur, notre vie change. C'est une nouvelle nature. On n'est plus conduit par l'esprit du monde, mais on est conduit par le Saint-Esprit. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et le Seigneur nous aide à manifester toutes ces choses-là. Amen. Amen.